Bien, nous allons reprendre. Les retardataires nous rejoindront. Ils nous rejoignent. Voilà, Marie-Louise, retardataire. Alors, ce matin, pour présenter la conférencière, j'avais la chance d'avoir une gentille collègue qui m'avait préparé une petite biographie. Et donc, j'ai pu être précis dans la présentation. Et c'était heureux parce que je ne connaissais pas sa biographie. Cet après-midi, ma gentille collègue ne m'a pas fait le même travail de préparation. Et c'est de sa faute, puisqu'il n'a pas envoyé les éléments qui lui étaient demandés. Mais la différence, c'est que nous nous connaissons depuis un certain nombre d'années et que donc ma présentation va être très lacunaire, mais je vais la faire à ma façon et il complétera. Pour moi, François Boquet, c'est d'abord le nom de celui qui a impulsé et animé un projet qui a vraiment fait date pour l'utilisation des technologies de la communication dans les écoles primaires. Et c'est un projet que sans doute certains d'entre vous ont déjà croisé dans leur lecture et qui s'appelait, avec un très joli nom en plus, les réseaux buissonniers du Vercors, dans une magnifique région montagneuse de France et qui mettait en réseau donc les élèves des écoles primaires. Donc moi, mon premier contact avec lui, c'est ça, et je pense qu'on est directement dans le sujet. Et je vais tout de suite aller à la dernière rencontre, mais on s'est rencontrés beaucoup de fois entre les deux, et qui était dans un colloque récent, enfin un petit peu plus d'un an, à Nice. Et ce colloque portait sur les nouvelles façons de lire et d'écrire avec les technologies numériques. Et là, moi, j'intervenais, François était là aussi. Et c'est là où j'ai découvert, grâce à lui, les technologies dont nous parlons aujourd'hui. C'est-à-dire, pardonnez-moi, c'est très bête, hein, mais c'est là où j'ai vu mon premier iPad. Sauf que là où c'est intéressant de le dire, c'est que lorsque... Donc, il n'était pas distribué en France, hein, l'iPad, à ce moment-là. Et je crois que tu l'avais acheté aux États-Unis. Bon. Et c'était la façon de le présenter, de présenter l'iPad qui a retenu toute mon attention, qui fait que je l'ai vraiment complètement en tête et que j'ai les images derrière les yeux, là. C'est que l'iPad, il l'avait, comment dire, inclus à un livre, mais un vrai livre, un livre papier. Vous savez, comme on peut cacher une bouteille d'alcool dans le livre d'une bibliothèque, mais là, ça n'était pas une bouteille d'alcool, c'était un iPad. Et dans un colloque qui traitait de lecture et d'écriture, la manœuvre était assez intéressante et habile. Donc, vous voyez, il est en plein cœur du sujet qui nous réunit aujourd'hui, des technologies dont on va parler. Alors, pour finir, avant de lui céder la parole, on en a parlé ce matin tous les deux, mais je vais le redire devant vous, c'est quelle est la nature de la commande ? Qu'est-ce que nous aimerions qu'il nous dise ? Enfin, il va dire ce qu'il veut surtout, mais deux choses. C'est que François travaille à Lyon 1 dans une université qui a beaucoup misé depuis longtemps, qui mise beaucoup sur ces technologies et qui a donc une grande expérience. De plus, l'expérience de François ne se limite pas à celle de l'université de Lyon 1. Donc c'est d'appuyer son propos sur une vraie solide expérience. Et puis la deuxième a trait à sa personnalité, la commande est, s'il te plaît, est-ce que tu peux être provocateur? Voilà, et maintenant je te laisse la parole pour une heure, et je te rappellerai la fin de l'heure.
On a le temps de discuter. Bien, bonjour à toutes et à tous. Donc effectivement, je vais compléter la bio qui a été faite là. Pour vous dire que je suis actuellement, j'ai pendant 6 ans été professeur d'université associé à l'université Lyon 2 en sciences de l'éducation et dans ce cadre encadré des futurs professeurs des écoles en 3e année de licence et en 2e année de master et en prenant en charge toute la partie relative à apprendre et enseigner avec les outils numériques à l'école primaire. Donc comme le disait Jean-François, le projet Réseau Buissonnier, pour vous donner une date, ça remonte à 18 ans, c'était en 1993, et donc on avait industrialisé un déploiement de... Ça ne rajeunit pas tout ça. On avait industrialisé un déploiement de 140 classes sur le Vercors et ses piémonts, ses vallées, qui étaient reliées avec des outils de télématique. On parlait de télématique scolaire à l'époque, puisque en 93, je vous rappelle qu'on ne connaissait pas encore le web. Il a été popularisé à partir de décembre 93 avec le premier navigateur Mosaïque inventé au CERN à Genève, à côté de Genève. Donc voilà, ça fait 18 ans que je travaille effectivement sur ces sujets-là. Et depuis à peu près 6 mois, j'ai intégré l'équipe d'ICAP à l'université Lyon 1, qui est un service spécialisé dans tout ce qui est support aux enseignants. Demain, vous aurez une autre intervention qui présentera des résultats de travaux. Et À l'université, en fait, je travaille pour la délégation interministérielle à l'éducation numérique en Afrique, la DIENA, et je travaille sur un projet qui s'appelle Sankore, du nom de la première université de Tombouctou, hein, qui est bien plus ancienne que toutes celles qu'on a entendues ce matin, puisqu'elle a démarré au XIIe siècle et qu'elle a été arrêtée au XVIIe siècle. Elle a eu jusqu'à 25 000 étudiants et elle enseignait toutes les humanités et les sciences à une époque où l'Empire du Mali était un empire rayonnant pour toute l'Afrique. Donc on a repris le nom de cette université ancestrale pour un projet qui utilise les outils numériques au service de la formation des enseignants et du support des enseignants dans les pays d'Afrique. Et on a le projet cette année de déployer 6000 classes dans l'Afrique francophone. Donc si ça vous intéresse, on aura l'occasion d'en discuter. Alors le titre de ma présentation, c'était « Mobiquité tout seul ». C'est ce qu'on m'avait demandé de faire. Et bon, vu que je ne suis pas vraiment un spécialiste des sujets de philosophie, parce que la mobiquité fait appel à des notions hautement philosophiques et sociologiques aussi, j'ai décidé de l'appuyer en m'appuyant sur mon expérience plutôt universitaire que dans d'ailleurs le scolaire, et en essayant de voir, bien que ce soit un sujet qui sera abordé demain et après-demain, en essayant de voir quel impact ça peut avoir sur l'enseignement et l'enseignement supérieur en particulier. Mais plus globalement, pas seulement l'enseignement, mais également le fonctionnement de l'université au sens plein du terme, c'est-à-dire à la fois des gens qui font de la recherche, des gens qui produisent de la connaissance, ceux qui la conservent, qui l'organisent, et puis ceux qui la transmettent, les enseignants et les étudiants. Voilà. Alors, en quelques mots, on a eu deux utopies. L'une, en 98, c'était des utopies dont nous regorgions. Hein, vous saviez, c'était le début de la bulle Internet, mais il manquait des outils. Il manquait des outils, des services en ligne, des logiciels, et il manquait du matériel adapté. Je ne sais pas si vous vous rappelez le matériel dont on disposait en 98, au milieu des années 90, en téléphonie dite cellulaire à l'époque. Ça s'est resté au Québec. Mais on avait vraiment des problèmes d'outils. Et le souci qu'on a aujourd'hui, c'est qu'on a beaucoup d'outils, mais il ne manque plus que des utopies. C'est-à-dire, en gros, on est submergé par le nombre de périphériques, de services, d'outils qui sont disponibles, mais on ne sait plus trop comment les utiliser de façon efficace. Et surtout, on a du mal à écouter les usagers. Alors, quand je dis « on a du mal », dans ma situation, c'est on a du mal à prendre en compte les habitudes des étudiants pour adapter de nouvelles façons de proposer de l'enseignement, du suivi, de l'accompagnement. Mais c'est valable en fait dans tous les domaines, et on pourrait appliquer ça par exemple au fonctionnement d'une collectivité territoriale, avec les usagers étant là, soit les administrés, soit même les élus, ça pourrait être dans toutes les organisations. Alors, on a également, dans l'année dernière, deux morts qui ont été annoncées. Alors, ce n'est pas la mort de Steve Jobs, je vous rassure tout de suite. C'est Steve Jobs, donc le PDG d'Apple, qui a dit que le PC était mort. Alors le PC, dans son acception, c'est-à-dire la tour et puis également les ordinateurs portables, alors il est mort, il va mourir, sans doute, puisqu'on a des périphériques informatiques, de plus en plus de périphériques informatiques par utilisateur. Hein, il y a quelques années, seuls les cadres avaient un ordinateur portable. Maintenant, la plupart des étudiants ont des ordinateurs portables, et à cet ordinateur portable s'ajoute un ordinateur fixe à la maison, plus un ordiphone, c'est comme ça que je traduis le mot smartphone. Et on a donc un tas d'outils, plus des consoles de jeux, un tas d'outils informatiques. Et le constat quand même, c'est que toute la logique d'organisation autour du PC, donc telle qu'on l'a vu d'ailleurs, la question a été abordée ce matin, sur l'endroit où il y avait les machines installées, etc., tout ça est en train de mourir. Alors, si vous suivez un petit peu les actualités, vous apercevrez que les rapports boursiers des derniers trimestres des fabricants, y compris d'ordinateurs portables, indiquent qu'il y a une décroissance forte, et il y a plusieurs hypothèses selon laquelle c'est la consommation des tablettes et des ordiphones qui fait que les gens, au lieu d'acheter un ordinateur portable, se reportent plutôt sur ces outils. Puis il y a une deuxième mort annoncée qui interpelle, c'est celle du web. Hein, ça a été publié par Chris Anderson dans Wired en septembre dernier, alors, où il argumente que le web est mort ou en train de mourir. Alors quand on parle du web tel qu'on l'a connu depuis une quinzaine d'années, c'est-à-dire d'un web qui s'affiche seulement à travers un navigateur, Ça ne veut pas dire qu'on ne va plus utiliser les réseaux. Bien au contraire, on les utilise de plus en plus, même sans le savoir. Mais c'est le web et la consommation et la production d'informations à travers un écran de navigation qui, lui, est en train d'évoluer considérablement. Et si vous avez des ordiphones, voire même des tablettes, vous vous en rendrez très rapidement compte en faisant le bilan des applications que vous avez chargées et que vous utilisez régulièrement, que plus de 70% des applications que vous avez chargées sont des applications qui sont en permanence connectées au réseau. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas les utiliser ou mal les utiliser si vous n'avez pas d'accès au réseau, soit pour resynchroniser, soit pour directement accéder à des informations. Et à travers ces applications, on utilise bien sûr le réseau, on utilise l'Internet, mais on n'utilise plus le web au sens habituel du terme. Alors il y a des renaissances autour de cette mort, et de ces morts annoncées. Et je fais l'hypothèse quand même que cette apparition de l'ubiquité et de la mobilité, que je vais redéfinir plus précisément, qui nous donne l'occasion de faire un joli mot valise, celui de la mobiquité, alors qui est un mot qui est apparu décembre 2007. J'ai oublié son nom, le gars qui a fait ça. C'est sur un blog de Pisani qu'il a produit ce terme pour la première fois. On va essayer de le définir un peu plus précisément. Parce que c'est un terme qui a l'intérêt d'aller plus loin que la seule notion de mobilité. Surtout, ça dépasse la question des outils eux-mêmes, c'est-à-dire du réseau, des périphériques, des logiciels, etc. Et ça s'appuie vraiment sur des approches d'usage. Et bien évidemment, ça permet de nouvelles situations d'apprentissage ou de les diversifier ou de les modifier. Alors, sur la mobiquité, en fait, il y a le premier mot valise, c'est le mot de mobilité. Alors, mobilité, on pourrait dire que c'est juste une modalité, c'est-à-dire on est mobile physiquement d'un lieu à un autre, on se déplace, mais ce n'est pas seulement ça. Alors pour la mobilité physique, si on prend les définitions qu'il y a dans l'excellent dictionnaire en ligne de Nancy, que vous connaissez, hein, les trésors de la langue française, est défini comme mobile ce qui se déplace par rapport à un lieu. Alors on a vu ce matin dans ce que nous a présenté Stéphana, il y a plein de moments où les gens vont utiliser dans des lieux différents des outils. C'est les mêmes outils qu'ils utilisent dans des lieux différents, avec des fonctionnalités d'ailleurs différentes selon le lieu et les contraintes sociales qui sont associées. La mobilité, c'est aussi le caractère de ce qui peut être déplacé. Là, on est plutôt sur la définition autour de l'objet lui-même. Mais il y a également la mobilité que j'appellerais plus une mobilité intellectuelle ou une mobilité immatérielle qui n'est pas liée à l'objet lui-même, mais plutôt au comportement d'individus. Hein, donc c'est une aptitude à accomplir ou à subir des changements d'ordre social. Hein, on parle de mobilité dans l'emploi, de mobilité, géographique, ça revient à la première, mais la mobilité dans une organisation, etc. On parle, ça donne également, on dit quand quelqu'un est mobile, une impression de vivacité, hein, d'agilité. Mais également, ça permet de poser la question de savoir si cette mobilité annoncée va être annonciatrice justement d'agilité ou de zapping. Alors même si le zapping peut être agile, on voit bien qu'il n'y a pas tout à fait les mêmes finalités derrière une organisation agile ou un comportement agile dans une organisation et puis le fait de zapper en permanence de choses à autre. Alors, l'autre point, c'est l'ubiquité. Alors l'ubiquité, en fait, c'est un don des dieux. Ça apparaît d'abord dans la théologie, hein, et ça caractérise le fait que les dieux, ou Dieu, si on est dans une croyance monothéiste, est capable d'être partout à la fois. C'est associé en général à l'omnipotence, c'est-à-dire à la faculté de tout savoir à tout moment, d'avoir pouvoir sur tout. Alors les dieux sont partout à la fois. Et là, on est dans une mythologie, mais aussi peut-être une projection dans laquelle chacun aimerait se situer. Hein, comme souvent, les gens rêvent de voler, ils peuvent rêver de vouloir être à plusieurs endroits en même temps. Alors, c'est un mot qui a été utilisé, qui est utilisé dans la langue française, pour des gens qui donnent l'impression d'être à plusieurs endroits en même temps. Vous savez, on dit par exemple, tel élu a un don d'ubiquité. Il était à l'inauguration, à telle réunion importante, et en même temps à tel autre endroit. Mais c'est également la rapidité à maîtriser l'espace considéré. Alors là, vous excuserez, il y a un petit, j'avais commencé quelque chose. L'espace, ça peut être l'espace au sens physique, mais ça peut être aussi l'espace au sens intellectuel, c'est-à-dire à repérer et à se situer dans toute la complexité d'un espace sur lequel on a à agir. Hein, par rapport à un champ de connaissances, par exemple, ça peut en faire partie. Et puis, bien sûr, c'est le caractère de ce qui existe partout. Alors, moi, je considère que l'intérêt de mettre le mot ubiquité raccroché à mobilité, la mobilité, ça peut se limiter à des machines ou à des problèmes de réseau. L'ubiquité, on est sur une autre dimension, on est sur celle de la projection, de l'idée qu'on se fait et peut-être même d'une finalité. On pourrait parler d'une finalité plus que d'une modalité. Alors, il y a un autre acronyme que vous verrez souvent qui est ATAWAD. Je ne sais pas si vous l'avez déjà vu, cet acronyme. Ça veut dire Anytime, Anywhere, Any Device. Et ça, on est encore sur une approche qui est assez technique. Moi, je le traduis, ça, quand je veux, où je veux et avec ce que je veux. Hein, c'est un peu plus long, comme toujours en français, mais ça a l'avantage d'être plus clair. Mais je rajouterai également avec qui je veux et avec les contenus et les services que je choisis pour rejoindre ce qui a été évoqué ce matin. Alors, quelles sont les idées de base autour de l'arrivée de cette mobiquité ? En fait, il y a 7 évolutions radicales. Alors, ça passe bien sur mon écran, mais je n'ai pas suffisamment vérifié avant sur un écran vidéo projeté. Bon, il y a eu le Web 1 qui est arrivé, on l'a dit, en 93-94 et qui est rentré dans le grand public aux alentours de 96-98. Il y a eu la notion d'intranet-extranet qui préexistait avec des applications spécifiques et puis qui s'est déployée au moment où les technologies Internet, ça date aussi, ça a démarré dans les années 95, qui était une première rupture puisque c'était plus juste de la publication mais c'était également de la collaboration. Il y a eu le Web 2 qui est arrivé, on va dire, dans le grand public au milieu des années 2000, là où tout est axé sur les contenus produits par les utilisateurs eux-mêmes. Hein, donc avec des paquebots comme Wikipédia, YouTube et d'autres outils. Il y a des apparitions techniques. Le grand changement quand on passe d'un petit téléphone avec des écrans qui peuvent afficher que des caractères difficilement à ce qu'on appelle les ordiphones ou smartphones. Il y a l'arrivée des tablettes il y a maintenant un peu plus d'un an et demi. Annoncée et puis mise en œuvre. Et puis, maintenant, la possibilité, avec ces différents éléments, ces 5 éléments, d'avoir un nomadisme appuyé sur des outils numériques qui est complètement libéré, sur lequel il n'y a plus d'entrave. Alors ça passe par 3 grands sauts, à la fois conceptuels, mais aussi technologiques, tout à fait importants. Le premier, c'est la notion de nuage. La notion de nuage, c'est ce qu'on dit en anglais, on parle de cloud computing, c'est la possibilité de déporter quelque part, c'est pour ça qu'on parle de nuage, l'ensemble des données auxquelles on a droit d'accéder, qui ne sont plus stockées dans le périphérique, mais qui sont stockées quelque part sur le réseau. Et ça, c'est un changement radical, puisqu'avant, on avait été habitué pendant des générations à tout stocker sur sa machine. Vous avez tous arrivé des problèmes quand la machine tombait en panne, le disque dur se crachait, on perdait tout, etc. Et là, la logique, c'est plus rien dans la machine et tout dans le nuage, de plus en plus dans le nuage. Le deuxième chose important, et on l'a vu tout à l'heure, Stéphane a nous montré que le bébé qui pointait quelque chose, que c'était un cap important, ben, c'est une autre image qui n'est pas de la même période, mais où on voit le doigt. Celui-là, je ne sais pas si c'est celui de Dieu ou d'Adam, je ne sais plus, dans la fresque de Da Vinci. Mais l'utilisation du doigt directement sur des outils sans avoir à passer par un autre artefact comme une souris, comme un dispositif de pointage, change énormément de choses dans la relation qu'on a à l'information qu'on traite, d'instantanéité et de choses comme ça. Et puis le dernier point, c'est le réseau, qui est le corollaire du premier d'ailleurs, hein, c'est le réseau permanent. C'est-à-dire que pour fonctionner avec le nuage, on a besoin d'un réseau qui est connecté en permanence et sur lequel on peut compter. Alors, dans le fonctionnement d'une université, d'une entreprise, d'une organisation, on a 3 grands temps. Alors, je n'ai pas fait les diapos depuis la présentation de Stéphana, hein, ça se rejoint, vous allez voir. Il y a le temps qui est la présence physique, mais pour autant pendant lequel on va avoir éventuellement besoin d'un certain nombre d'outils et de services numériques nomades. La distance synchrone, que j'ai symbolisée avec un espace de visioconférence, par exemple, et puis le distant asynchrone. Et ces 3 grands temps, il faut les avoir en tête, puisque chacun de ces grands temps vont nécessité de mettre en œuvre des outils, des services et des logiques d'usage différentes. Les trois grands outils qu'on a maintenant, c'est le PC, l'ordiphone et la tablette. Alors, quelles que soient les marques, bien sûr, là, j'ai plutôt été chercher dans l'iconographie Apple, encore que non, il y a un petit Android à droite. Quelles que soient les marques, on a vraiment ces différentes logiques qui correspondent à différentes situations. Hein, quand vous avez une tablette, et c'est sûr que vous ne pouvez pas la mettre dans la poche. Il y a des gens qui ont fait des poches dans certains vêtements, mais c'est vraiment pas adapté. Ça, on l'a partout, tout le temps. Et une tablette, on est obligé de la sortir, de l'ouvrir, de prendre des fois le risque dans les transports en commun de te la faire voler. Donc là, tous les éléments qui ont été apportés par Stéphana tout à l'heure peuvent complètement s'appliquer. Alors, les grands lieux qu'on va avoir quand il s'agit d'étudiants ou d'enseignants, c'est l'université. Alors l'université, j'ai précisé quand même deux points importants qui sont les bibliothèques et ce qu'on appelle en anglais les learning centers. En gros, ça veut dire centre d'apprentissage, donc je préfère utiliser le français. Donc là, on est bien sur le secteur de l'université. C'est la maison ou le domicile, au sens plus large, qui n'est pas forcément la maison, ça peut être autre chose. Et puis la rue, les cafés, les transports en commun, les différents endroits. Et à chacun de ces lieux va correspondre, là encore, des stratégies d'usage différents. Alors, on peut se poser la question de ces trois grands lieux, ces trois grands outils et ces trois grands temps, comment tout ça s'articule par rapport à la mobilité et à l'ubiquité. Eh bien, tout simplement, on va, comme c'était évoqué tout à l'heure, cumuler un certain nombre d'outils, cumuler un certain nombre d'usages en les adaptant aux besoins, aux lieux et aux outils qu'on va utiliser. Et ça, ça va permettre d'être dans un lieu, mais de faire autre chose, c'est-à-dire d'être à la bibliothèque, mais de discuter avec sa meilleure amie ou sa petite copine, d'être avec sa petite copine, mais de regarder à préparer son cours, parce que le cours démarre, il y a une évaluation l'après-midi, et d'être en cours tout en étant à la bibliothèque en train de chercher la documentation sur ce dont parle l'enseignant pour vérifier si on est bien d'accord avec ce qu'il dit. Donc cette ubiquité, là, on l'a perçoit de façon concrète parce qu'on a des utilisateurs qui vont d'un lieu donné naviguer de lieu en lieu, virtuel bien sûr, pour aller chercher des informations qui sont en relation avec leurs préoccupations du moment, l'anytime dont on parlait tout à l'heure. Alors, les bénéfices de cette mobiquité, c'est d'être toujours relié aux autres, c'est de ne plus être dans la procrastination. Donc dans l'idée de vouloir reporter au lendemain ce qu'on doit faire aujourd'hui, c'est d'être en situation de stimulation permanente par rapport aux autres, en particulier dans la relation qu'on peut avoir avec les autres. C'est d'avoir bien sûr l'humanité et son savoir à disposition, d'avoir toutes les bases de données, toutes les wikis, toutes les papiers de recherche dans tous les domaines. Et c'est de ne pas rester seul dans sa chambre ou son bureau quand on étudie ou quand on prépare un papier de recherche. Alors les risques, c'est de ne jamais débrancher, donc d'être toujours en situation d'hyper-stimulation et d'hyper-saturation, de procrastiner et d'en souffrir, parce qu'évidemment, il y a toujours les deux côtés du problème, j'ai pas pensé à vous mettre ça, mais je pourrais vous donner une boucle de procrastination avec les outils de la mobilité qui vous permet de à peu près décrire ce que vous faites tous les jours. C'est-à-dire, je commence par aller voir mon profil Facebook, il n'y a rien dessus, je vais voir sur ma messagerie, il y a des trucs à répondre, je réponds, je vais voir sur un site web, je publie sur le site web sur Twitter, je vais voir si j'ai des commentaires, etc. Et donc vous pouvez tourner la boucle autant que vous voulez jusqu'au moment où vous avez trop faim ou trop sommeil pour sortir de la boucle. Donc c'est aussi d'être toujours sollicité. Un des risques de cette ubiquité, et c'est pour ça que seuls les dieux s'en sortent, c'est justement parce que ce sont des dieux et nous ne le sommes pas, nous sommes de simples mortels, c'est aussi d'être saturé d'informations et de communication. Et là, on apprend, alors je ne sais pas si les sociologues ont beaucoup encore travaillé là-dessus, mais quand on parle de multitâche et toutes ces choses-là, c'est qu'en fait, progressivement, on apprend à gérer les niveaux de priorité, les niveaux d'information, et on est étonné de voir même des enfants arriver à rentrer là-dedans. Un des corollaires de la mobilité, de la connexion permanente, c'est qu'on est susceptible d'être tracé partout. Alors tracé, des fois on dit oui, j'autorise à ce qu'on sache où je suis. Il y a des services comme ça, mais sachez que vos opérateurs savent en permanence où vous êtes. Hein, c'est-à-dire que si moi demain je disparais et qu'il y a une commission rogatoire pour savoir où j'étais, eh ben, c'est extrêmement simple, on me donnera tous les signaux là où j'étais depuis 48 heures et on sait pertinemment où je suis. Et puis c'est un autre problème qui peut apparaître, c'est d'être trop dans l'instant et de perdre le recul nécessaire, ce qui est capital quand on est à l'université. Alors, une des questions que je me suis posée, c'est est-ce que les instruments nomades qu'on utilise, donc ces tablettes, ces ordinateurs, ces ordiphones, peuvent être considérés comme des objets cognitifs, au sens où ils sont définis par les cogniticiens et les spécialistes du sujet. En fait, pour qu'un objet soit identifié comme un objet cognitif, il faut qu'il remplisse quatre fonctions. Et on va s'apercevoir, si on les regarde, qu'effectivement, on va assez rapidement se mettre d'accord sur le fait que la prise d'information, la productivité, l'organisation, la fonction de partenaire d'apprentissage, au sens outil d'entraînement, outil de simulation, outil donnant des feedbacks sur des réponses et des choses comme ça, et la fonction de partenaire intellectuel, alors pas forcément directement, mais en tant que médiateur avec d'autres partenaires intellectuels, on s'aperçoit que tous les objets dont on vient de parler, les tablettes, les ordiphones et bien sûr les ordinateurs, peuvent être identifiés, si les services et les logiciels adaptés y sont associés, comme des objets cognitifs. Alors ça, c'est intéressant parce que ça veut dire qu'on ne se pose plus la question de savoir si on peut apprendre avec ces outils-là. La réponse est oui, mais la question, c'est plutôt de savoir qu'est-ce qu'on va apprendre, comment on va apprendre, dans quelle relation avec l'objet, mais aussi avec les pairs ou avec les enseignants avec qui on travaille. Alors, j'ai prévu de vous montrer quelques exemples de situations de mobicuité à partir d'applications. Alors, dans les outils, j'en ai amené plusieurs. Hein, donc, il y a les iPads que vous connaissez, sans doute. Sinon, vous pourrez voir, je pourrais vous montrer, les prêter. Ça, c'est une tablette sous Android. Et ça me permet d'ailleurs de voir que ce n'est pas parce qu'on a le même format et la même tablette, à peu près le même poids, qu'on a les mêmes fonctionnalités, le même fonctionnement, suivant les logiciels. Il y en a une qui est beaucoup plus rare en France, qui est une tablette sous Windows, qui est une tablette canadienne, qui s'appelle ExoPC. Alors là, vous allez, si vous jouez avec ça, vous allez découvrir que la différence qu'il y a entre une interface tactile et utiliser une interface faite pour une souris avec des doigts. C'est quasiment littéralement impossible, mais bon, il y en a qui s'obstinent à ce genre de choses. L'expérience est intéressante. Et puis j'ai aussi amené cet outil-là, qui est le XO, du projet One Laptop Per Child, fait par une fondation autour du MIT. C'est un outil qui est distribué à 1,5 million exemplaires dans les pays émergents, donc on n'en trouve pas, on ne peut pas en acheter en France. Et c'est pour moi le concept, on va dire, rendu réel de ce qu'est la mobicuité, au vrai sens du terme, mise à disposition d'enfants qui ne sont absolument pas en milieu saturé de technologie comme on peut l'être nous. Et avec donc un certain nombre d'organisations et de métaphores dans l'interface qui sont tout à fait remarquables. Tout est basé sur l'activité et non plus sur le fichier. Donc c'est quelle activité j'ai fait avec qui, à quel sujet, et non pas quel outil j'ai utilisé. C'est basé sur de la mise en relation et toutes les activités peuvent être faites de façon collective, ce qu'on ne trouve pas encore de façon régulière sur les ordiphones et sur les tablettes. Alors, les grandes fonctions de qu'on va retrouver dans l'université, bien sûr, c'est toutes les fonctions d'information. Alors là, c'est facile. Hein. Les services d'information dans les universités, ce sont des applications qui sont, en général, pas des applications web. Alors, il y a des avantages et des inconvénients, mais ce n'est pas l'objet. Vous en rediscuterez peut-être demain et après-demain. Énormément de services existent. J'en ai compté moins de 10 en France. C'est-à-dire il y a moins de 10 établissements d'enseignement supérieur, grandes écoles comprises, qui ont, à la rentrée 2011, des services et des applications utilisables sur des outils mobicuitaires. Hein, ce qui est quand même monte un petit peu le décalage qu'il y a entre la réflexion qu'on peut avoir et puis la réalité. Il y a des médias dédiés aux étudiants. Donc là, j'en ai pris deux exemples, mais il y en a bien sûr d'autres qui existent. Il y a les espaces numériques de travail, les fameux espaces numériques de travail, dont on nous rebat les oreilles depuis quelques années. À ce jour, je n'ai vu aucune application d'espace numérique de travail fonctionnant de façon efficace sur un ordiphone ou sur une tablette. En France, hein, j'entends. L'exemple que je vous ai montré là, Toolback, je vous donnerai les listes et tout ça pour que vous puissiez aller explorer. Hein. C'est plutôt fait pour le secondaire et c'est une structure privée qui l'a faite complètement indépendamment des ENT, même pour le secondaire. Alors, c'est d'autant plus navrant que le taux d'équipement en Ordiphone des 15-18 ans est en train d'exploser littéralement. C'est-à-dire qu'il double de 50% tous les ans. On arrive à plus de 80% d'équipement en Ordiphone sur cette classe d'âge dans l'année 2011-2012. Donc ça veut dire que pratiquement tous les élèves, tous les étudiants rentrant à l'université d'ici un ou deux ans auront déjà une expérience importante de l'utilisation des Ordiphones. Donc ça laisse un petit peu rêveur sur l'absence de réaction et le fait de vouloir reprendre des interfaces du web 1 pour les remettre à travers une toute petite interface comme ça, donc avec des choses qui sont littéralement pas utilisables. Je pourrais vous montrer, y a des exemples qui sont catastrophiques. Alors l'orientation, c'est aussi une fonction tout à fait importante. Là, je vous ai montré cet exemple-là. MobiPof, c'est un outil qui a été fait dans le cadre du projet Proxima, financé par le ministère, et qui vous permet, en fonction de votre géolocalisation et d'un certain nombre de critères, de vous proposer un ensemble d'offres de formation concernant des métiers, avec une entrée par métier. Alors, ce n'est pas du tout fait par l'ONICEP, ce n'est pas du tout fait par les universités, mais ça fonctionne très bien. C'est fait sur les bases de données des CARIF, des centres régionaux d'information sur la formation. La lecture, bien sûr, c'est quelque chose de très important, en particulier sur les tablettes, bien qu'on puisse également lire sur des ordiphones. Et là, on va avoir, bien sûr, ce qui relève de l'actualité ou d'outils de référence comme Wiki, mais également des ouvrages que j'appelle les ouvrages augmentés. C'est-à-dire, c'est des, comme des livres, mais dans lesquels on va rajouter de la vidéo, de l'interaction et un tas d'autres choses, et qui vont être extrêmement riches pour accéder à de l'information de qualité. Il y a tout ce qui est livre, bien sûr. Alors les livres qu'on trouve en librairie, je vous ai mis des exemples, les Google Book, Fnac Book, Numilog, qui est le distributeur de livres numériques d'Hachette. Mais j'ai insisté sur deux choses qu'on ne voit pas du tout en France et on ne les verra pas encore cette année. Ça a explosé depuis un an et demi aux États-Unis. C'est tout ça là, toute cette partie-là, qui sont les services permettant de louer des livres universitaires à des prix qui sont de 30% du coût de l'achat d'un livre et qui sont des livres qui sont apportés en flux. C'est-à-dire ils ne sont pas téléchargés sur la machine, mais on lit les pages et elles se chargent au fur et à mesure où on en a besoin, ce qui évite les problèmes de piratage et toutes ces choses-là. Alors là, on a un ensemble de modèles tout à fait intéressants qui se mettent en place et j'attire votre attention sur deux modèles passionnants qui sont Amazon Student et Chegg, qui sont eux des services où vous allez dans une librairie, vous voyez un bouquin, vous prenez votre appareil photo sur votre ordiphone, vous cliquez, vous dites je veux des renseignements donc sur le code barre, il vous le propose soit au téléchargement, soit à la location, soit à l'achat de type Amazon, c'est-à-dire envoyé sous 24 heures chez vous, avec un rabais de 25 à 30%. Donc, je ne sais pas si c'est la loi sur le prix unique du livre qui fait qu'en France, on n'est pas prêt de voir toutes ces choses-là, mais sachez que c'est des services sur lesquels vous pouvez vous abonner, puisqu'on vous demande de quelle université vous êtes, ou si vous ne faites pas partie d'une université, on peut quand même vous envoyer des ouvrages, tant qu'il y a du business à faire, il n'y a pas de problème. L'autre que j'ai mis est ici, Goodreader, c'est un petit logiciel qui permet de lire, en particulier des PDF. Pourquoi je vous l'ai mis ? Parce que c'est un petit clignotant vert pour tout ce qui est piratage de manuels et de livres numériques. Actuellement, vous cherchez tous les ouvrages qui coûtent cher, entre 100, 120, 130, 150 euros, sont très facilement trouvables sur le web au format PDF et vous pouvez les mettre en moins de 2 minutes sur votre tablette. Vous avez des pavés qui font 350 pages qui ont été piratés et cet outil Goodreader est très utile pour lire ces manuels et vous constituer votre bibliothèque. Je ne dis pas que c'est ce qu'il faut faire, mais c'est ce qui se passe aujourd'hui quand vous avez des étudiants en médecine. Mon fils est dans les métiers de santé, il m'a montré tous les bouquins qu'il avait chargés. Bon, je lui ai dit que ce n'était pas bien. Alors après, il y a tout ce qui relève de la lecture savante. La lecture savante, ça va être la lecture, pas seulement la consultation d'un ouvrage, mais également l'annotation, le travail d'écriture, de réécriture, de réinterprétation et de mise en contexte autour de l'ouvrage ou de l'article qu'on va lire. Donc là, il y a un tas d'outils qui existent, qui vont permettre de prendre des notes, de les partager, de les publier, etc. Je mets une mention spéciale à celui-là, Course Notes, qui est un outil tout à fait remarquable, parce qu'il est fait pour que des communautés au sein d'un enseignement, d'un cours, se mutualisent toutes les notes prises. Alors bien sûr, ça repose sur le concept nord-américain que chaque cours a une nomenclature précise. Et donc, on peut retrouver par la nomenclature le cours en question. Mais c'est un des premiers outils que je vois réellement apparaître où on sort de la logique du web par le navigateur, comme on peut le faire avec des Google Docs ou des choses comme ça, pour rentrer sur des stratégies collaboratives de prise de notes et de commentaires de notes, de lecture et de choses comme ça. Autre outil tout à fait remarquable, eScholar Readers, qui est basé sur le service de Google pour les articles et qui vous permet, si là je veux faire une recherche sur, je fais Jean-François Cerisier là-dessus, je vais voir l'ensemble des articles qui sont dans Google qu'a fait Jean-François. Et si je veux récupérer les articles, je clique sur récupérer les articles, je récupère les articles et je les lis tranquillement quand je reviens à Grenoble demain dans le train. Donc ça aussi, si vous y, enfin, vous pouvez pas forcément vous imaginer, sauf les plus anciens, mais si on revient 20 ans en arrière sur ce que c'était que le boulot documentaire d'un étudiant qui faisait un mémoire de recherche, c'était l'enfer, quoi. On se battait avec des fiches, des tiroirs, avec des cartons, il fallait aller voir un magasinier, obtenir le truc, on n'avait pas le droit de l'emprunter, il fallait lire sur place, il n'y avait pas de photocopieuse, enfin bon, ça change tout. Et là, ça veut dire qu'on va pouvoir lire et travailler là-dessus au moment choisi. Alors ensuite, il y a apprendre. Bien sûr, tout ce qu'on a vu, c'est déjà apprendre. Mais là, il y a des choses tout à fait intéressantes. C'est des points d'accès sur des plateformes d'apprentissage, hein, les Learning Management Systems, LMS. Donc là, vous avez des exemples sur Moodle et un exemple sur Blackboard également, qui vous permet directement d'accéder, de synchroniser tout avec votre ordiphone ou votre tablette. J'ai remis Course Notes derrière parce que je pense que là aussi on rentre dans un nouveau monde qui est celui que vont utiliser sans doute les étudiants. C'est-à-dire que quand les services d'environnement numérique de travail de leur université est aussi inconsistant que ceux qu'on observe aujourd'hui, eh bien ils s'organisent entre eux et ils recréent eux-mêmes leur propre environnement numérique de travail. Et cet outil-là, parmi d'autres, est un outil qui permet complètement de se substituer au dysfonctionnement majeur des espaces numériques de travail. Alors ensuite, il y a tout. Vous savez, tout à l'heure, je parlais des objets cognitifs, on parlait du compagnon d'apprentissage. Et là, on est vraiment sur les outils de simulation et de contenu structuré, hein, qui changent, qui évoluent. Alors là, il y en a tout un tas, je ne vais pas les détailler. Hein. Il y en a dans le domaine de la médecine, il y en a dans le domaine de l'astronomie, du droit, des sciences de la vie et de la Terre. Infoterre, que je vous recommande. Moi, je suis de formation géomorphologue. Et c'était une galère pour moi, quand j'étais en fac de géographie, d'accéder à des cartes. Soit des cartes 25 millièmes, soit des cartes géologiques. Parce qu'on ne pouvait aller que les emprunter pour aller sur le terrain, c'était toute une affaire, etc. Infoterre, vous avez la totalité des cartes du BRGM jusqu'au 25 millièmes qui est complètement en libre accès. On ne paye même pas pour ça. Et donc on peut avoir, et bien sûr on est géolocalisé, hein, c'est-à-dire que si je prends mon iPad, il me dit t'es à Poitiers, il va détecter que je suis à Poitiers, il me donne la carte géologique de Poitiers. Bon, c'est un intérêt limité là en ce moment, mais... Il y a tout ce qui va être aussi autour de l'entraînement des langues, les radios bien sûr, très utiles pour ça, les fils d'actualité, la botanique, la chimie, la musique aussi, beaucoup de choses autour de la musique. Tout ce qui est référence aussi, c'est-à-dire que dans un simple ordiphone, vous allez embarquer plusieurs éditions de dictionnaires. Là j'ai mis le Gray's Anatomy qui est l'outil de référence pour les étudiants en médecine ou en sciences de la santé. Les dictionnaires, World Bank aussi, je vous recommande ça, c'est une application absolument géniale. Elle vous permet d'aller faire de la collecte d'informations dans les banques de données de la Banque mondiale. Donc si vous voulez faire une étude comparative entre 4 pays sur le niveau de formation des enseignants du premier degré chez les femmes, eh ben, vous faites une requête là-dessus et vous avez instantanément vos graphiques qui sont publiés, que vous pouvez vous envoyer par courrier, vous accédez à ça en permanence. Là j'ai mis aussi TED que vous connaissez peut-être, qui est un service qui fait des conférences et il y a une version avec les sous-titrages en français pour ceux qui ont du mal à comprendre l'anglais et la tentative d'imitation faite par l'Open Video Education dans lequel il y a 4 ou 5 écoles françaises qui se courent après pour mettre chacune 3 vidéos, donc c'est la réponse française à TED si on veut. Alors, dans la production, il y a tous les outils de production. Alors là, il y a ceux qu'on voit habituellement. Je vais peut-être insister sur des outils comme les outils de cartographie mentale, parce que la mobicuité, c'est aussi une autre façon d'apprendre, et ça mobilise d'autres choses, et en particulier tout ce qui va être apprentissage visuel. Et MindMeister, parmi d'autres, est un outil tout à fait intéressant pour travailler sur les cartes mentales directement. Il y a aussi tout ce qui va être la publication en ligne, avec des modes très très simplifiés. Alors là, je fais référence par exemple à des outils comme Tumblr ou Posterous, qui permettent de faire vraiment de la publication au fur et à mesure. Alors ça peut être utilisé par un enseignant, ça peut être utilisé par un étudiant qui fait des notes, etc. Et là, on est plutôt sur des partages d'images. Je reviens à mes formations de départ, autour de la géomorphologie. J'aurais rêvé d'avoir un outil qui me géolocalise mes photos, qui me permette de les commenter à l'oral et de les publier instantanément, quel que soit le terrain où je suis, à condition qu'il y ait une couverture téléphonique, pour retrouver tout ça ensuite et traiter l'information. Hein, c'est des choses complètement extraordinaires. Il y a tout ce qui relève de la captation, parce que c'est quelque chose que j'ai découvert dans les deux dernières années, c'est que une bonne partie de mes étudiants, surtout quand ce sont des étudiants étrangers, ils captent la totalité de ce que je fais pendant les cours et les TD. Donc je suis enregistré. Il y a des outils qui me permettent de prendre les diapos que j'affiche en recorrigeant automatiquement le parallaxe pour avoir quelque chose de propre avec les notes. Ça, c'est pour enregistrer directement, scanner des documents comme si vous les passiez au scanner. Et puis ça, c'est pour diffuser en temps réel la vidéo de ce que vous prenez. C'est-à-dire avec n'importe quel, à partir du moment où j'ai du Wi-Fi, je peux publier sur mon blog en direct ce que je filme avec mon ordiphone. Alors avec, bien sûr, là encore, des choses intéressantes et des choses catastrophiques qui peuvent arriver. Là, c'est tout ce qui est planification des tâches. Planification des tâches, c'est organisation individuelle ou collective. Donc, Do It Tomorrow, c'est des applications, on a des to-do list à faire, des choses comme ça. Là, c'est plus lié à l'organisation collective. Et Timeline, c'est une application qui va permettre d'apprendre à travailler en mode projet à plusieurs, avec des accès concurrents sur le même fichier dans le nuage, mais avec une supervision. Et puis, il y a aussi tout ce qui est organiser la vie de l'étudiant. Là, j'ai mis plutôt côté étudiant. Alors, il y a plein d'applications. Bien sûr, les applications de recettes, de cuisine, parce qu'il faut manger quand on est étudiant. Qu'est-ce que je fais aujourd'hui, les recettes. Tout ce qui relève des assistances santé, tout ce qui relève de l'immobilier, les déplacements, déplacements à faible coût avec du covoiturage, l'accès à des musées. Donc, tous ces services-là sont des services qui font partie de la vie de l'étudiant et qu'il a embarqué également sur son ordiphone. Et puis le dernier point, c'est comment je m'insère dans la vie professionnelle. Et donc, c'est tous les services de recherche d'emploi et de réseaux professionnels, dans lesquels je n'ai pas mis Facebook, mais j'ai mis tous les réseaux, enfin les réseaux actuellement qu'on trouve facilement, en particulier Viadeo, le français, LinkedIn, l'américain, le fameux réseau de l'APEC, que j'espère vous ne connaîtrez pas trop de trop près, Monster, Quel Job, et même le guide de l'auto-entrepreneur, qui est une solution intermédiaire intéressante pour les étudiants qui souhaitent s'insérer dans la vie. Voilà. Donc, au-delà de ces outils, j'ai mis quelques outils, mais c'est plus pour mémoire, je vous les montre comme ça rapidement. Ça, c'est des outils de prise de notes et de publication instantanée. Ça, c'est des outils de partage de fichiers de façon très simple, qui synchronisent entre plusieurs ordinateurs, son téléphone mobile et sa tablette, ce qui fait qu'on a en permanence accès à la totalité de ces documents, même quand on n'est pas connecté au réseau. Skype, bien sûr, que vous connaissez, qui permet de faire de la visioconférence sur tous les mondes. Ça réunit toutes les applications. Cette application-là, elle est très intéressante parce qu'elle permet elle est très peu chère et surtout, elle permet d'utiliser l'espace de stockage de Google. Si vous avez un compte Google, vous pouvez directement stocker les documents sur Google. Donc là, on est dans la logique du nuage. Et si vous faites voler votre téléphone cellulaire, eh bien vous arrivez, vous faites fonctionner votre assurance, vous reprenez un autre téléphone et vous récupérez tous vos documents. MindMeister, j'en ai déjà parlé rapidement tout à l'heure. Outliner, c'est un gestionnaire de plan qui permet d'organiser les idées et de coproduire des idées de façon collective. Zinio, c'est un kiosque à journaux, donc un petit peu moins intéressant. Yammer, c'est intéressant, c'est une logique de microblog, un peu comme Twitter, mais qui est limitée à un nom de domaine. C'est-à-dire que si vous utilisez le service, alors vous pouvez l'utiliser sur un navigateur web aussi, Mais ce service-là, il est vraiment intéressant parce que si vous êtes plusieurs étudiants avec une adresse commune @unif-poitiers.fr, ben le Yammer va être réservé aux gens de unif-poitiers.fr. Et vous avez un premier cercle d'intimité qui est sans doute nécessaire pour fonctionner. Flipboard, c'est un outil qui permet de publier tous les flux RSS que vous suivez. Alors ça, c'est un outil qui est complètement remarquable hein, parce qu'il vous agrège de façon éditoriale, comme si vous lisiez un magazine, en fait, l'ensemble de vos ressources. Ça, c'est pour faire de l'agenda collaboratif, Sisical. Et Fiddler aussi, qui permet d'agréger tous les flux issus de Google Reader. Alors, là, moi, j'ai pas passé de temps là-dessus. C'était pour montrer ce qu'il était possible de faire aujourd'hui avec des outils un petit peu évolués pour mettre à disposition des applications en ligne pour une université. Mais je ne vais pas insister là-dessus parce que ça serait trop long. Je vais plutôt introduire quelques sujets de débat sur lesquels on va pouvoir peut-être échanger maintenant ou plus tard si on souhaite le faire ensuite. Alors, première question, il y a 9 points que j'ai identifiés. C'est l'urgence de repenser et de sortir de nos vieilles habitudes. Je vous ai fait quelques allusions tout à l'heure au dysfonctionnement qu'on avait dans les services d'information des universités ou peut-être parfois des espaces numériques de travail qui ne sont pas forcément adaptés à ce qu'en attendent les utilisateurs, donc qui les amènent à se détourner de tout ça. Il faut qu'en tant que décideur ou en tant qu'enseignant, mais pourquoi pas aussi en tant qu'étudiant, on repense un certain nombre de choses et on se repose un certain nombre de questions en mettant de côté les vieilles habitudes. Très souvent, quand on va travailler là-dessus, on va vous dire « Ah oui, mais il y a ça qui ne va pas marcher, ou ça ne peut pas fonctionner, ou ça c'est trop compliqué. » Très souvent, les gens se font l'avocat du diable quand on parle d'évolution de cette nature-là. Et moi, je pense qu'il y a vraiment de l'intérêt à être plutôt l'avocat de l'ange, c'est-à-dire ne pas toujours chercher tout ce qui va coincer, tout ce qui va poser problème, mais plutôt mettre l'accent sur ce qui est possible, ce qui serait bien, ce qui serait idéal et toutes ces choses-là. Donc relibérer un peu de création et créativité par rapport à tous les potentiels des outils et services qui sont mis à notre disposition. Autre point important, c'est l'utilité d'agir plus que de disserter. C'est-à-dire qu'on est très souvent sur des stratégies dans le système universitaire où on va discuter, faire des rencontres où on va discuter des discussions et assez rapidement dire ben voilà, on a fait quelque chose, ça n'a pas marché, voilà pourquoi ça n'a pas marché et voilà ce qu'on vous recommanderait de faire si on devait aller de l'avant. Hein, on a vraiment des comportements moutonniers là-dessus et les erreurs nous apprennent plus que les bavardages, ça c'est sûr dans ce domaine-là. Mais bon, j'enfonce des portes ouvertes quand je dis ça, mais c'est bien de les remettre dans le contexte de la mobiquité également. Autre point, c'est profiter tout de suite de ce qui existe. Parce que sinon, on a très souvent des logiques. Hein, je ne sais pas si vous entendez peut-être le discours ambiant depuis un an et demi. On vous dit, mais iPad, c'est nul. Attendez de voir ce que vous allez voir avec Android. Et donc, les gens qui attendent effectivement de voir ce qu'on va voir avec Android n'ont encore pas vu grand-chose. Encore pire si on leur avait dit d'attendre avec Windows 8 qui va bientôt arriver là. Hein, ça fait maintenant un an aussi, on nous dit attendez, vous allez voir ce que vous allez voir. Là, la question, elle n'est pas d'attendre de voir ce qu'on va voir avec tel outil et tel outil, c'est de faire au maximum avec les outils dont on peut disposer aujourd'hui. Avant de faire les projets en 93 de télématique, on faisait nous de la télématique avec des Minitel, avec un câble série qu'on branchait sur le Minitel et un petit logiciel qui retournait le modem du Minitel. Hein, pour les plus anciens d'entre vous, vous savez que maintenant on parle en mégabits, d'ailleurs vous ne comptez même plus les liaisons que vous avez avec la DSL, mais à l'époque quand on faisait de la télématique, les modems qu'on avait c'était des modems 300 bits par seconde. Maintenant on est à 20 gigabits par seconde, 20 mégabits, ça, 20 mégabits par seconde. Donc on avait 300 bits par seconde. Et pour faire de la télématique scolaire, on prenait un Minitel, on mettait un câble, et le modem du Minitel c'était 75 200. C'est-à-dire il remontait de l'information à 75 et il téléchargeait de l'information à 1200 bits par seconde, 4 fois plus rapide. Et du coup, on utilisait des logiciels qui retournaient le modem du Minitel et on faisait du 1200-1200. Pratiquement gratuitement, ça coûtait, 5 francs, un peu moins d'un euro pour acheter le câble. Donc, et on faisait de la télématique scolaire, des choses vraiment géniales, vraiment intéressantes, qui marquent encore les gamins. J'en ai reparlé avec des gens qui ont une trentaine d'années maintenant, qui me disaient « Ouais, je me souviens, on allait en classe de mère, on emmenait le Minitel, l'imprimante et tout ça. » Enfin bon, Voilà. Donc, vraiment, mon conseil, mais ça se discute, c'est ne pas attendre ce qui arrive demain, faire avec ce qui existe aujourd'hui, quitte à faire un certain nombre de compromissions. L'autre point, c'est faire confiance à l'intelligence des autres. Parce qu'aujourd'hui, en fait, dans nos systèmes, on s'aperçoit qu'on est assez replié sur soi-même. Quand on voit que ça ne va pas, on cherche d'autres personnes qui sont aussi convaincues que nous. Et j'ai quelques exemples en tête, mais je ne vous les dirai pas là, parce que ça, vu que je suis diffusé en direct, ça va me retomber dessus. Donc là, c'est vraiment profiter d'outils qui permettent des mises en relation larges pour regarder ce que les autres font, ce que les autres pensent de ce qu'on fait, et puis partager. Hein, la mobiquité, c'est aussi le partage. Mais on va voir dans certaines conditions. C'est faire de ces écrans des lieux de collaboration et de complicité. Hein, c'est-à-dire que une des hypothèses que je fais autour de la mobiquité, c'est que l'ordinateur n'est plus fait pour se refermer soi-même dans son travail, mais plutôt pour le partager. Soit partager parce qu'on est deux à regarder quelque chose, ou trois à regarder quelque chose, soit partager à travers les outils qu'on a à disposition. Construire ensemble un regard critique, des commentaires, etc. Là, j'ai fait quelques expériences avec des gamins en classe de CE2 avec des tablettes. Et les activités qui ont le plus marché, c'est les activités où les enfants étaient 3 ou 4 autour de la tablette, soit sur une table, soit à 4 pattes sur le sol, ça évitait que le risque de tablette qui tombe, et sur des travaux de collaboration, soit de production de dessins, soit de résolution de problèmes, où on a 4 ou 5 gamins, vous les imaginez, là, à 4 pattes, les fesses en l'air, en train de faire tourner la tablette, etc. Et c'est ça qui marchait le mieux. Donc c'est étonnant parce qu'on part au début du principe que c'est un outil personnel, individuel. On imagine que ça peut permettre de dialoguer avec les autres. Et en fait, ça devient le point de regroupement de plusieurs personnes qui travaillent en même temps sur la même chose. Donc c'est tout à fait intéressant. Admettre également que le cerveau a besoin de zapper. Aucun cerveau ne fonctionne de façon linéaire, sauf de gens qui ont, par une assaise répétée, réussi à contrôler leur fonctionnement naturel. Et donc, il ne faut pas chercher à enfermer le cerveau dans une logique linéaire. Et quand on a des outils bien faits qui permettent de passer d'une tâche à l'autre rapidement tout en conservant l'état de la tâche pour la continuer et la reprendre, eh bien, on devient non pas multitâche au sens de faire plusieurs choses en même temps, mais c'est multitâche au sens de faire des choses différentes dans des temps très courts. De revenir, de repartir, de revenir, rechercher une info. Cette info me fait penser que je dois envoyer un message à un tel, j'envoie le message à un tel, il me répond, ça me fait une nouvelle entrée, je la traite de façon différente, je publie, etc. Vous voyez, ça, c'est quelque chose de très très important avec ces outils-là. Sans doute, et même évidemment, repenser complètement l'approche des environnements numériques d'apprentissage. Donc là, j'enlève le mot espace numérique de travail, et je reviens au terme qui aurait toujours dû être... retenu, donc environnement numérique d'apprentissage, on peut, avec tous ces outils mobiquitaires, permettre à chacun de se créer, de se constituer lui-même son propre environnement numérique d'apprentissage. Vous voyez, tous les outils que je vous ai montrés tout à l'heure, suivant les sujets, le moment, le niveau d'études, les groupes, la dynamique des groupes dans lesquels on s'inscrit, le rôle que va avoir l'enseignant, on va pouvoir adapter son environnement numérique d'apprentissage en récupérant des briques et des outils. Et là où avant c'était très compliqué, parce qu'il fallait demander à quelqu'un d'un centre de ressources informatiques d'agréger les applications qu'il voudrait bien agréger au sein d'une interface web, là j'ai plus besoin de ça. Mon interface web, ça devient ma tablette. Dans ma tablette, je mets les services que je veux, avec qui vont me permettre de travailler avec qui je veux, quand je veux et sur les contenus que je veux. Et personne de l'institution ne décidera de la façon dont je travaille avec tout ça. C'est moi-même et mes pairs qui décideront comment on travaille. Et puis, un des derniers points que je n'ai pas vraiment déroulé, c'est les avantages et inconvénients de ce qu'on appelle les jardins clos. Les jardins clos, c'est une expression, là encore, traduite de l'anglais, part du principe que quand on est dans un espace sécurisé, sécurisé parce qu'on y filtre les personnes qui y rentrent, sécurisé parce qu'on choisit les applications et ce qu'elles vont permettre de faire, on gagne des degrés de liberté qui nous font accepter le fait d'être dans un espace contraint. C'est les personnes qui ont les moyens, qui vont habiter dans une zone résidentielle qui est entourée d'un mur dans lequel personne d'autre ne rentre et les enfants vont entre eux pouvoir aller d'une maison de l'un à l'autre, etc. Ça, c'est la logique du jardin clos, au sens analogique du terme. Le jardin clos amené à nos outils mobiquitaires, c'est la logique d'Apple L'opposé étant la logique d'Android, par exemple, aujourd'hui, où tout est ouvert, chacun peut déposer en vrac des applications sans qu'elles soient contrôlées par personne. Mais après, on doit faire seulement confiance à la personne qui a déposé l'application et pas à la société qui garantit que l'application va avoir telle et telle règle de comportement. Et ça, on va le retrouver non seulement dans les applications, mais également dans les zones de confiance qu'on va créer. Et ça, ça rejoint, je pense, ce qui a été vu ce matin sur les cercles de confiance ou les cercles de proximité. C'est que moi, je fais l'hypothèse qu'on apprend et qu'on collabore efficacement avec un niveau d'intimité suffisant. Ça ne se fait pas sur Facebook au grand public, ça se fait sur des zones qui sont des zones avec une intimité suffisante. Et donc, il y a vraiment des débats là-dessus, alors qu'ils sont liés au choix technologique, au choix de matériel, au choix des éditeurs et toutes ces questions. Voilà. Donc ben là, je vais laisser place à la discussion. Je pense que j'ai fait mes 15h01, même un petit peu moins. Donc ça va, on va pouvoir discuter suffisamment pour discuter. Donc je rends ici quand même hommage à Frédéric Soussin, avec qui j'ai travaillé les premières versions de cette présentation qu'on avait présenté à Autran, rencontre d'Autran 2011, qui n'était pas spécialisé sur le système supérieur, donc est quelqu'un qui habite Angoulême et qui travaille pas mal là-dessus, et il faisait déjà partie de l'équipe des réseaux buissonniers, puisqu'à l'époque, il était consultant et nous aidait bénévolement pour travailler sur ce projet-là en 93. Voilà, donc ben, je suis à votre disposition pour échanger, amener des indications, des compléments, et puis discuter sur un certain nombre de points qui susciterai le débat.
Bonjour, je m'appelle Taima Pérez, je suis vénézuélienne et je suis de master au Romumé. Plus qu'une question, j'ai une réflexion. Pardon pour mon français. Désolée si ça ne se comprend pas bien. Je me pose la question si ce n'est pas une utopie penser que avec les outils technologiques, on peut résoudre les utopies d'ailleurs. Aujourd'hui, quand on sait que la technologie va plus rapide que le cerveau, que les mains, que les doigts, et que le développement et que les efforts pour résoudre les différences entre le développement et le sous-développement, les premiers mondes et les troisième monde. C'est ça. Merci beaucoup.
Alors oui, effectivement, je pense qu'il y a des applications différentes selon les pays, selon les niveaux de développement, selon les niveaux d'infrastructure qui existent. Moi, quand même, j'ai l'occasion de circuler dans mes différents projets dans des pays qui sont parfois des pays en voie de développement, donc des pays du tiers-monde. Et je suis très, très étonné par le saut technologique qui est fait, par exemple, pour mettre en place des réseaux téléphoniques. Plusieurs pays d'Afrique que j'ai visités n'ont pratiquement jamais eu de réseau téléphonique filaire, hein, les landlines, là, c'est-à-dire avec du fil de cuivre. Ils sont tout de suite passés au téléphone cellulaire. Et le téléphone cellulaire, maintenant, si vous allez à Bamako, le téléphone cellulaire à la mode, c'est un téléphone africanisé, donc il est... c'est pas un iPhone, hein, c'est des téléphones chinois qui ont des lampes puissantes, enfin qui font un tas de choses dont on a besoin localement, mais qui ont le navigateur. Et c'est très 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 abordable d'utiliser un navigateur web, y compris dans des pays d'Afrique occidentale. Donc c'est pas du tout au coût. Nous on les paye ici. Donc effectivement c'est une utopie. Il y a peut-être d'autres besoins à combler, il y a d'autres nécessités. Mais je pense quand même que les changements qu'on observe, les grandes tendances, sont des tendances qu'on va observer dans pratiquement tous les pays, au fur et à mesure où la mise en place des infrastructures sera rendue possible. Et le niveau de vie, bien sûr, sera suffisant pour soit se doter, soit être équipé de ce genre de matériel.
Bonjour, je suis Edemir de Romimidou aussi. Vous avez dit dans un avant que le cerveau a besoin de zapper, que le cerveau a besoin de zapper. Ça, c'est intéressant pour moi parce que il impacte beaucoup dans la pédagogie d'aujourd'hui. Et j'ai vu que dans mon expérience de travail, dans mon expérience de recherche, que les profs sont perdus avec ça. Parce qu'avec un texte, vous avez un domaine de où les élèves sortent, où ils partent, et où ils vont arriver. Et avec une chose comme ça, chacun va faire son chemin, chacun va faire son forme d'apprendre quand même. Non? Qu'est-ce que vous pensez de ça?
Alors, effectivement, le fait que chacun ait ses outils et s'approprie des outils et des méthodes de travail va faire que ça change le travail de l'enseignant. On est bien d'accord. C'est-à-dire qu'on a des enseignants qui vont devoir vraisemblablement plus devenir des experts des activités ou des situations ou des scénarios qu'ils proposent aux apprenants plutôt que d'avoir des enseignants qui déroulent une conférence et puis ou une lecture ou quelque chose de très linéaire parce que chacun va progresser selon sa vitesse, aller chercher plus de renseignements, reformuler. Certains vont apprendre en recopiant strictement. D'autres vont apprendre en faisant une carte mentale, d'autres vont apprendre en cherchant des informations complémentaires par rapport à ce qu'ils ont entendu. Et toutes ces situations, toutes ces mécaniques d'apprentissage, eh bien, c'est tout l'enjeu de réussir à les maîtriser pour un enseignant. Mais je reconnais tout à fait que c'est très, très, très compliqué. Il y a des expériences, il y a aujourd'hui deux types, enfin vous en parlerez peut-être demain dans l'éducation, mais moi j'observe deux approches différentes par rapport à l'usage de ces outils nomades avec des élèves. Il y a des endroits où on va donner à tous les élèves tous la même chose avec toute la même configuration et interdiction de changer quoi que ce soit. Ça, je dirais que c'est un peu la façon de penser du XXe siècle. C'est comme ça qu'on faisait les réseaux d'établissements, toutes ces choses-là. Il y a d'autres courants, en particulier que moi j'ai observé au Canada ou au Québec, où là la logique est différente, les enseignants font le constat que tous les élèves ont soit un outil pour écouter de la musique qui se connecte en Wi-Fi, soit une console de jeu, soit un téléphone portable. Et ils disent aux enfants, pour la prochaine séance, chacun amène son téléphone ou sa console de jeu ou autre. Et à ce moment-là, ils vont créer des situations pédagogiques où ils ne distribuent pas la machine, mais ils amènent les enfants à rentrer dans des scénarios, en général des scénarios par groupe, hein, c'est la pédagogie basée sur des approches socio-constructivistes ou connectivistes, et ils amènent des groupes à utiliser leur propre périphérique pour aller faire des quêtes, chercher de l'information, la structurer, etc. Mais on voit bien que ce n'est pas du tout le même savoir-faire du côté de l'enseignant. Donc ce qui change, ça rejoint un peu ce que disait Madame tout à l'heure, c'est qu'effectivement il y a une évolution très rapide des potentiels, ça reprend ce que j'ai dit au début, hein. C'est on a tout le matériel qu'on veut, tous les services qu'on veut, où sont les utopies? Ce que je vous décris là, c'est une situation utopique. Je ne suis pas sûr que si on va à l'UFM de Poitiers cet après-midi, on va observer beaucoup d'enseignants qui non seulement parlent de ça, mais surtout le mettent en œuvre avec leurs étudiants en Master 1, en Master 2. J'ai des doutes. Peut-être qu'il y aura quelques enseignants spécialisés qui vont en parler, mais ils en parleront pendant une conférence, sans forcément amener les étudiants à faire ça. Alors je dis ça, je ne connais pas les gens de Poitiers, donc c'est fort possible que ça soit différent.
Merci beaucoup. Donc je vous félicite par rapport à la qualité du travail et de l'inventaire des outils qui nous sont proposés ici. Ma question depuis ce matin, hein, peut-être que c'est maintenant que la question a été carrément en forme. On nous parle d'enseignants, de formateurs, on nous parle d'apprenants, on nous parle des outils. Mais d'une part, moi, depuis ce matin, je n'ai pas entendu le nom de peut-être une appellation des techniciens. Aujourd'hui, avec un monde où on a beaucoup d'outils, on parle moins des techniciens. Par exemple, quelle est la place des techniciens dans ce monde où pratiquement tout est devenu libre?
Vaste question. On a jusqu'à quelle heure pour répondre à tout ça?
Tu as le temps.
Ouais, non, mais donc en fait, alors je pense pas forcément que c'est lié au libre en tant que tel. Le libre, c'est encore un autre débat sur les ressources libres, les ressources éducatives libres, etc. Ce qui est sûr, c'est qu'à partir du moment où on est sur des logiques où chacun a ses périphériques nomades. Par exemple, une tablette et un ordiphone, ou un ordiphone et une console de jeu. Ce ne sont plus les techniciens de l'institution qui vont avoir en charge la maintenance, la qualité du réseau et la maintenance des serveurs. Avant, c'était au sein de l'établissement qu'on avait des gens responsables du réseau, des gens responsables du... Donc, on fait l'hypothèse, puisqu'on parle d'utopie, que tout ça fonctionne. Alors, il y a des techniciens, mais ils ne sont plus dans l'institution éducative. C'est les techniciens des opérateurs de réseaux téléphoniques, c'est les fabricants de téléphones mobiles qui ne sont jamais réparés. Ils sont remplacés éventuellement, mais jamais réparés. Et donc, on a un décalage, effectivement, de toute cette fonction-là. Alors, pour autant, ces personnes-là restent redoutablement nécessaires, indispensablement nécessaires. Parce que le travail que j'ai fait rapidement, là, et je l'ai fait beaucoup trop rapidement, mais si vous me disiez, bah, tiens, voilà, je travaille dans tel domaine, avec des étudiants ou avec des collègues dans telle chose, voilà, tel résultat on voudrait obtenir, est-ce que vous pouvez m'aider en une heure à démarrer quelque chose, à m'illustrer des scénarios, et ensuite, peut-être, pendant un mois, deux mois, à régulièrement suivre le travail que j'ai fait. On voit bien que pour ça, il faut des personnes. Alors, les Canadiens utilisent le terme de technopédagogue, que moi, j'aime beaucoup, parce qu'on n'est pas dans le domaine de la technique, c'est-à-dire que ce n'est pas des responsables de l'informatique. Ça, on en a besoin pour que ça fonctionne, mais on fait l'hypothèse que ça marche. Mais on sait que quand l'informatique marche, ça ne suffit pas. Parce que les enseignants, d'eux-mêmes, ne vont pas utiliser et les étudiants ou les élèves ne vont pas forcément l'utiliser. Donc cette fonction de technopédagogue, c'est une nouvelle fonction, je pense, ou une fonction qui existe déjà parfois. Hein. C'est celle qu'on trouve souvent dans les cellules dites TIS des universités. On a plutôt des technopédagogues que des informaticiens purs. Hein. Des gens qui sont à la fois capables de dialoguer côté pédagogie, mais également de diagnostiquer des problèmes techniques. Donc vous voyez que je pense que ces fonctions-là vont évoluer, mais ça pose aussi la question de la formation de ces personnes-là. C'est-à-dire que dès le moment où on n'aura plus de salle informatique dans une université parce qu'on considère que tous les étudiants auront soit un téléphone portable, soit une tablette, faudra qu'on fonctionne autrement.
Bien, avant de repasser la parole, juste un message qui parvient par le chat, puisque à la diffusion est associé un chat, de collègues manifestement qui témoignent qu'à Poitiers, les choses ne sont pas différentes et que nous manquons cruellement de personnel qui pourrait accompagner ou qui devrait accompagner les enseignants pour mettre en œuvre tous ces services et toute cette stratégie d'enseignement et d'apprentissage.
Oui, Emmanuel Mogard, étudiant en IME et professeur d'histoire géo. Là, j'interviens plutôt en tant qu'enseignant parce que ce qui m'a interpellé, c'est la notion de jardin privé. Parce que dans le cadre de mon master 1, j'avais fait un travail, une recherche par rapport à l'écriture collaborative. J'ai eu des reproches par rapport au fait de l'intrusion dans l'intimité de l'élève, dans le sens où j'avais la possibilité de savoir quand est-ce qu'ils travaillaient chez eux et la possibilité aussi d'avoir leur manière d'intervenir. Donc ma question, c'est par rapport, est-ce que ces outils peuvent développer l'autonomie réellement? Est-ce qu'il n'y a pas une limite à l'autonomie en ayant la possibilité d'avoir une traçabilité justement de leur travail à la maison? Et une atteinte à leur intimité.
Alors, ouais, là aussi, c'est une vaste question. Je vais répondre avec les éléments que je peux avoir en tête à cet instant-là. Mais le traçage des activités d'apprenant, c'est le rêve suprême de la plupart des pédagogues sérieux, on va dire. Hein, puisque ce qui les intéresse, ce n'est pas de savoir si les élèves ont appris ou pas, c'est de savoir quel chemin ils ont fait pour apprendre. Et donc, c'est vrai que des outils de traçage qu'on va retrouver, par exemple, dans Framapad ou Etherpad, permettant de faire l'écriture collaborative, ou dans MindMeister, par exemple, qui permet de reconstruire l'historique de la construction d'une carte mentale, sont des outils remarquables au niveau de l'analyse pédagogique a posteriori de la construction. Pour moi, ça ne rentre pas... À partir du moment où un élève décide, alors c'est un petit peu difficile quand on parle d'élèves, si on parle d'élèves mineurs, on n'est pas tout à fait dans la même logique que si on parle de majeurs consentants, on va dire, hein, que sont théoriquement les étudiantes et les étudiants. Mais on a effectivement quelque chose d'extrêmement riche. Et je pense que quand quelqu'un décide de collaborer sur ce mode-là, il faut qu'il ait conscience et qu'on l'informe et qu'on l'éduque au choix qu'il fait de rendre visible un certain nombre de choses. Ça fait partie d'ailleurs de ce qu'on doit faire théoriquement dans la préparation au B2I, que ce soit pour l'école, enfin brevet Internet et informatique, que ce soit à l'école primaire, au collège, au lycée, voire même à l'université avec le certificat Internet et informatique. Donc pour moi, cette notion de traçabilité, elle ne pose pas de problème réel à partir du moment où on est conscient que ce qu'on fait est tracé. Après, si c'est de l'espionnage, c'est-à-dire qu'on n'avertit pas les gens ou les jeunes, on ne les éduque pas à ça, là, ça pose un problème, effectivement, éthique, quoi, je pense.
Bonjour, je m'appelle Natalia, je suis polonaise. Je suis aussi une nouvelle étudiante de Romim. J'ai juste une réflexion, parce qu'avant, nous avons beaucoup de problèmes de trouver d'informations, et maintenant, nous sommes bombardés avec d'informations. Donc, ça peut être un peu problématique de trouver d'informations qui sont vraies, qui sont complètes, pas des erreurs. Donc, on peut perdre beaucoup de temps de trouver d'informations. Donc, il y a des outils qui peuvent nous aider ou avec ce problème ou non.
Alors je dirais que plus que des outils informatiques, ça va être des outils méthodologiques. C'est-à-dire qu'un des grands enjeux, je pense d'ailleurs on passe à côté de tout ça, parce que quand on a le mot informatique dans la tête, on voit de la technique, on ne voit pas la science de traitement de l'information. On voit des ordinateurs, on voit des câbles, on voit des algorithmes, on voit tout ça, mais on ne voit pas tout ce qu'il y a derrière. Et un des grands enjeux, je pense, dans l'apprentissage des générations montantes, alors que sont encore les étudiants, parce que malheureusement, même des étudiants aujourd'hui n'ont pas forcément appris tout ça, ça va être d'apprendre justement à trouver de l'information, trier, faire ce travail de multitâches rapprochées que j'évoquais tout à l'heure, mais aussi tout en s'adaptant au fonctionnement cognitif de chacun. Parce que moi, l'exemple que je donnais me concernant, il n'est pas forcément transposable à tout le monde. Il y a des personnes qui vont avoir besoin de faire les choses de façon très linéaire, de consacrer une heure à faire une seule chose, à s'isoler, etc. D'autres vont être très créatrices et créatives en ayant des sollicitations permanentes qui vont les relancer sur un tas de choses et qui peut-être donnent l'apparence d'être complètement désordonnées, mais à la fin, on a quelque chose de très intéressant. Et donc là, cette aptitude à collecter et traiter, analyser et trier l'information fait partie, je pense, des savoir-faire fondamentaux qu'on a besoin de maîtriser maintenant et encore plus demain. Hein, parce que, enfin, je ne sais pas si vous regardez un petit peu les statistiques d'augmentation des niveaux d'information, je ne veux pas dire que c'est exponentiel, parce que ça ne serait pas vrai au sens mathématique du terme, mais chaque heure, il se rajoute, je crois, je ne sais plus combien, quelque chose comme 50 ou 60 ou 100 heures d'informations supplémentaires sur YouTube. Alors je dis le chiffre, c'est peut-être pas le bon, c'est peut-être 500, mais c'est absolument pas comparable avec la capitalisation, on va dire, normale à laquelle on pourrait s'attendre. Donc effectivement, tout ça donne ce qu'on appelle des fois l'infobésité. Mais je pense que ça se traite pas avec des machines, peut-être avec des machines qui peuvent aider, autour du web sémantique, etc. Mais c'est surtout des compétences. Vous pouvez faire l'exercice une fois, donner une question un petit peu complexe et demander aux gens de faire des recherches sur la question pour remonter des informations pertinentes, tout en gardant la trace de ce qu'ils ont fait. Et vous allez voir, si vous prenez une salle avec 15 étudiants, faites ça la semaine prochaine, là, sur un TD ou un truc comme ça, vous allez voir que les 15 vont choisir des stratégies différentes. Alors au début, ils vont pratiquement tous choisir la même, qui va être « je tape en gros les mots-clés », puis vu que ça remonte beaucoup de bruit et qu'on ne sait pas si l'information est pertinente, au fur et à mesure, on va affiner en rajoutant des mots-clés qui sont un petit peu différents, mais chacun va choisir des mots-clés qui sont en relation avec la compréhension qu'il a du sujet. Donc les informations qui vont remonter vont toutes être différentes, avec des stratégies différentes. Donc je pense que c'est plus là-dessus qu'il faut vraiment travailler qu'à la recherche d'un outil idéal qui ferait ça pour nous, quoi.
Bonjour, enfin à nouveau Roland Martin, toujours l'université de Poitiers. Ça veut dire que le C2I qu'on est tout juste en train de mettre en place en France au niveau des étudiants, donc C2I niveau 1, C2I niveau 2 et le C2I des enseignants, il est déjà obsolète depuis longtemps. Puisque si on ajoute ces outils de mobilité, il va falloir maîtriser tous les artefacts de l'usage de ces outils-là, d'un côté comme de l'autre, c'est-à-dire pour l'apprenant comme pour l'enseignant. Est-ce qu'il y a des solutions? Est-ce qu'il va exister des modules spécialement pour intégrer ces technologies-là?
Alors, oui, je pense qu'il y a du retard. Tout ce qui est institutionnel a du retard, dans tous les cas, hein, parce qu'il y a les processus de validation, il y a toutes ces choses-là. Il y a aussi que la plupart des personnes qui contribuent à élaborer les référentiels sont des personnes qui ne rentrent absolument pas dans tous ces outils-là. Moi, j'étais surpris sur un jury. C'est juste une anecdote. Un jury de C2I2E, donc certificat Internet informatique pour les enseignants, et on avait des problèmes de mise à jour de la grille d'évaluation parce qu'on était plusieurs à faire des évaluations croisées. Alors il y en a qui voulaient à tout prix utiliser une application qui est en développement depuis 5 ans, qui a coûté la peau des fesses au niveau du ministère, etc. Mais qui pose un vrai problème, c'est que cette application-là, elle est seulement visible du côté des évaluateurs. C'est-à-dire que rien de ce que produisent les étudiants n'est visible de l'extérieur. Or, c'est l'opposé total de ce qu'on peut imaginer comme étant un portfolio. Donc on a dit, nous, on va publier toutes les informations des étudiants sur des blogs pour que ça soit visible de tous et qu'on crée des interactions entre les étudiants. Mais du coup, on ne peut plus utiliser l'usine à gaz qui a été faite. Donc là-dessus, je dis, ben, c'est pas grave, on va utiliser un Google Doc. Alors, plusieurs des membres du jury du C2I2E m'ont dit, mais nous, on n'utilise pas ça, puis on ne veut pas se créer un compte Google et on ne veut pas utiliser ça. Donc ça veut dire que ces personnes-là n'ont jamais utilisé un outil collaboratif de travail en ligne, que ce soit sur des tableurs ou des traitements de texte. Et ils sont responsables de jury C2I2E. Donc ça veut dire qu'effectivement, il y a un énorme décalage entre le référentiel lui-même, le savoir-faire, parce que tout ça, ça s'apprend. Et c'est pas, moi, quand je dis ça, je ne me moque pas d'eux et je ne leur fais pas de reproches à eux personnellement. Hein. Mais ça montre le chemin qu'il y a à faire pour avoir des gens qui sont formés, informés, qui utilisent, qui essayent, qui expérimentent et qui testent. Mais pour autant, aujourd'hui, si vous êtes enseignant ou stagiaire dans une école ou un collège ou un lycée ou à l'université, demandez aux collègues d'apporter chacun un périphérique pour pouvoir se connecter, vous allez voir que tout le monde vient avec quelque chose. Tout le monde. Non, mais à peu près. Après, va toujours avoir 5 ou 10% effectivement de gens qui auront des soucis. Mais à ce moment-là, ils vont se mettre à côté de quelqu'un d'autre qui aura un grand écran. Donc on peut vraiment faire des choses, mais il y a, je pense, beaucoup, beaucoup, beaucoup d'éléments à revoir sur cette question-là. C'est une fracture numérique, en quelque sorte, mais qui est une nouvelle fracture numérique. C'est une fracture numérique, pas dans la disponibilité de l'outil ou du réseau, mais dans ce qu'on en fait. C'est-à-dire, est-ce qu'on l'utilise à sa pleine efficience ou est-ce qu'on l'utilise juste pour consommer et aller voir des choses D'ailleurs, en général, c'est fait pour ça, hein. C'est-à-dire que tous les outils qu'on nous met à disposition ne sont pas réellement des outils qui sont au départ faits pour qu'on l'utilise de façon intelligente. Ça arrive, mais ce n'est pas toujours le cas.
Bonjour, je suis Gerzin Christophe, je suis étudiant en master et à distance en informatique. Et je voulais revenir sur certains points, surtout une réflexion. Déjà, je confirme à madame que le C2I il est dépassé depuis longtemps. Il n'y a que les étudiants qui n'ont pas la chance ou pas la possibilité d'avoir du matériel informatique qui ont besoin de ça, en fait. Tous les autres, ils ont largement, en général, le niveau C2I à peu près, on va dire. Plus ou moins, voilà. Mais pour certains, c'est loin. Donc à part ça, c'est surtout une réflexion. On parle beaucoup d'apprenants. On a parlé un peu de tuteurs aussi. Et ça fait 5 ans que je fais des études à distance et justement la relation apprenant et professeur a un peu changé. Et on a aussi parlé d'infobésité, c'est-à-dire qu'on s'est retrouvé avec des profs qui nous distribuaient de l'information mais qui ne nous enseignaient plus forcément. En gros, ils étaient plus dans un rôle de cadre, donc de tuteur. Et c'est là qu'on a eu une discussion avec certains. On est arrivé à l'idée en fait que pour la première fois, entre guillemets, les élèves ne faisaient pas que répéter, mais ils allaient s'enrichir et chercher l'information, ou simplement vérifier l'information. C'est quelque chose qu'il y a encore 10 ans, on ne pouvait pas vraiment faire. On ne faisait pas. Et je trouve que c'était intéressant, mais le problème à côté, c'est que ces outils ont évolué énormément, mais très vite, et ils continuent. Institutionnellement, c'est très lent. Je ne vais pas dire que c'est au point mort, mais c'est super lent. ça ne suit pas. Ou alors, ça va suivre, il va y avoir une évolution, mais ça aura 5 ans de retard ou 10 ans de retard. Et malheureusement, la technologie évolue encore beaucoup plus vite. Donc il y a vraiment un gros décalage à ce point-là. Alors je ne dis pas que tout est mauvais. La FOAD est très, 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 très intéressante, elle est très pratique, elle est très bien, mais il y a un gros décalage. Je ne sais pas si c'est dû au manque de formation, certainement. Peut-être qu'on ne forme pas assez les professeurs. Peut-être qu'on ne leur laisse pas le temps aussi, parce que ça demande beaucoup de temps de refaire les cours, par exemple. Et on s'aperçoit que si les outils ont changé, les méthodes n'ont pas changé. Et moi, je pense que là, il y a un gros problème à ce niveau-là. Mais c'est bon, ça ira.
Oui, non, mais de toute façon, enfin, ce qui est abordé là comme question, c'est celle de ce que j'appelle moi la conduite du changement. C'est-à-dire que les institutions, par exemple, qui font la formation à distance, elles savent, mais je pense que les gens, enfin, le CNED pourrait nous dire ça, c'est que c'est pas parce qu'on change ou on ajuste la technologie que derrière tout se met en ordre derrière. Ça veut dire qu'effectivement, il y a les producteurs de ressources qui peuvent être des enseignants, qui professent, mettent à disposition un cours. Un cours, pour moi, c'est une interaction, c'est pas seulement le contenu, c'est l'interaction qu'il y a entre un enseignant et son auditoire, mais c'est encore autre chose que d'encadrer les travaux des apprenants, travaux individuels ou travaux collectifs. Et ça, dans le modèle habituel, on confie ça plutôt à des tuteurs, alors que c'est pratiquement ce qui relève de l'expertise la plus avancée, si on veut produire au maximum. Le problème, c'est qu'il y a un décalage entre le fonctionnement analogique d'un dispositif d'enseignement et le fonctionnement dématérialisé qui fait que derrière, on a du mal à ajuster et à trouver les bons outils au bon moment. Hein, et sachant que moi, je ne connais pratiquement pas d'institutions ayant mis en place des formations à distance qui ont décidé de le faire sans installer leur propre plateforme. Alors qu'aujourd'hui, ça ne me pose pas de problème. Moi, si demain, on me dit organise la formation à distance de tel type de cadre ou de tel type de choses, je ne vais certainement pas demander à installer une plateforme de formation. Il y a tellement de choses qui sont déjà disponibles pour le faire que ça ne sert strictement à rien. En termes de coût, alors bien sûr, ça peut faire de la peine aux gens de la technique et de l'informatique qui vont dire « Mais comment ça? Je suis là, on ne me demande pas d'installer une plateforme. » Ben oui, non, mais ce n'est pas utile. Il y a tous les outils sont là et on peut les régler, les avoir juste ce qu'on a besoin de faire. On évoquait tout à l'heure un projet qui vous sera présenté demain, qui est un projet de boîtier de vote en amphithéâtre. Alors c'est des choses qui sont très intéressantes dans certains types de scénarios pédagogiques. Moi, j'ai trouvé la semaine dernière une application web où vous inscrivez, c'est gratuit. Vous pouvez avoir jusqu'à 30 personnes en même temps qui répondent en temps réel à des questionnements. Depuis mon smartphone, je peux créer le questionnaire là. Je le publie, je vous affiche ici l'URL que vous allez utiliser. Vous allez sur votre téléphone portable, l'outil que vous avez, votre ordinateur, etc. Vous répondez aux questions et en temps réel, je vois l'affichage des résultats. Ben ça, c'est quelque chose. Aujourd'hui, il y a deux situations. Vous allez peut-être être dans une université, on va vous dire « Ah ben oui, il faut monter un projet, demander de l'argent à la région, obtenir un poste d'assistant ingénieur en plus, et puis peut-être dans 2 ans, on aura quelque chose. » C'est le scénario qu'il m'est arrivé de voir. Et puis, ou l'autre solution qui est de dire « Ben bouge pas, il y a un truc qui existe. On l'utilise cet après-midi, on voit si ça marche. Si ça marche pas, on en cherche un autre. Et puis au bout de 6 mois, si vraiment on voit qu'on peut pas faire avec ça, on essaiera d'inventer autre chose. » Mais le monde entier, travaillant sur ces questions-là, il y a de bonnes chances qu'on trouve quand même une solution. Donc voilà, on est vraiment dans cette logique-là. Mais je conçois que ce soit un peu une logique un peu de rupture, quoi. Est-ce qu'il y a encore d'autres éléments, d'autres interrogations, d'autres marques? Il y en a une là-bas.
Et ce sera la dernière question.
La dernière. Il y a d'autres questions par Internet? Des commentaires.
Oui, excusez-moi, je suis venu comme ça pour écouter un petit peu ce qui se disait sur la Mobiquité. Moi, je suis pas équipé de système portable, d'ortiphone et tout ça. Moi, je me pose la question par rapport à tout ce que je peux voir, comme vous dites, il y a des choses qui sont développées et tout. Moi, je me pose la question de la pérennité en fait de ces outils, parce que moi, j'utilise beaucoup de choses qui sont développées dans le libre. Donc les mises à jour sont particulièrement mises à jour, régulièrement, en tout cas pour ce qui est le moteur de propulsion. Ensuite, le problème est toutes les applications qui sont développées à côté et qui sont développés par des gens qui sont bien souvent des étudiants et qui vont abandonner le projet. Et donc, en fait, on se retrouve après avec des systèmes de rupture d'accessibilité parce que le moteur, lui, continue à évoluer. Or, l'applicatif qui a été développé, il est stoppé, quoi. Donc, on est limité par rapport à ça. Et ensuite, moi, ça me pose aussi souci dans un point de vue écologique par rapport à la redondance aussi de l'information. C'est-à-dire que de toute façon, tout à l'heure, vous disiez que effectivement, vous pouvez être propulsé sur n'importe quel type de choses. Donc, vous allez être propulsé plusieurs fois à des endroits différents. Donc, déjà, ça pose des énormes problèmes de stockage et de consommation énergétique. Et ensuite, vous disiez, dans les espaces collaboratifs, par rapport à la vie privée, on dit à la personne, oui, mais il faut que tu sois bien conscient que tu partages ces systèmes. Or, en fait, on est dans un système qui est dans une logique d'absorption, c'est-à-dire qu'à un moment ou un autre, on ne peut plus être privé. C'est-à-dire qu'on ne peut plus dire « je ne vais pas machiner » puisque automatiquement, il y a un archivage systématique dès que vous vous connectez. Donc, en fait, la notion de vie privée n'existe plus. Vous êtes pisté en permanence, et si vous n'adhérez pas au système, et automatiquement vous êtes exclu et vous êtes dans une fracture au-delà du numérique, dans une fracture vraiment vraiment sociale. Voilà.
Oui, non, mais tout ça c'est des sujets importants qu'il faut vraiment avoir en tête. Alors sur la question de l'évolution des logiciels, moi je connais plusieurs projets universitaires dans la formation qui sont tout à fait passionnants, qui utilisent des choses qui sont très très proches du fonctionnement de Facebook, sauf que c'est pas du tout Facebook, c'est du logiciel libre et on peut l'installer sur un serveur d'une collectivité territoriale, on peut l'installer sur un serveur d'une université et on arrivera à apprendre aux gens à gérer de façon fine la gestion de leur vie privée ou des cercles d'intimité qu'ils créent. C'est un outil qui s'appelle ELG, ELGG par exemple, qui permet de faire ça. Vous avez des outils qui permettent de faire comme Twitter, qui s'appelle statut.net, qui est un open source aussi que vous pouvez télécharger et installer pour le faire fonctionner. Par exemple, on pourrait imaginer que la ville de Poitiers mette un serveur statut.net pour toutes ses écoles pour permettre à chaque enfant de disposer d'un compte de microblog, mais sans pour autant que ce soit comme sur Twitter, visible de tout le monde, accessible par tout le monde. Ça deviendrait un outil pédagogique permettant d'apprendre ce que c'est que les cercles de vie privée, etc. C'est un jardin clos. On fait du jardin clos avec du logiciel libre également. Il y a plein de solutions, mais je suis d'accord avec vous. Les gens qui ne rentreront pas dans ce genre de logique, ils font partie des 15% de réfractaires à tout changement. Je dirais que depuis que... Vous n'avez pas lu le bouquin de Roy Lewis, « Pourquoi j'ai mangé mon père ?» Ceux qui l'ont lu voient tout de suite à quoi je pense. Donc c'est l'histoire, c'est la transition entre l'homo habilis et l'homo erectus, ou je ne sais plus, c'est entre celui qui a inventé le feu et celui qui ne l'a pas encore inventé. Et le débat entre un père et son fils. Son fils a inventé le feu et son père lui dit toujours « Mais tu ne te rends pas compte de tous les problèmes qu'on va avoir, etc. » Non, c'est le fils. C'est le fils mange son père. Ah, c'est pour ça. Bon, je n'ai plus le souvenir précis, je l'ai lu il y a trop longtemps. Mais bref, c'est tout le discours autour de l'innovation, de la résistance sociale, de l'analyse du risque, l'analyse risque-bénéfice, etc. Effectivement, là, on est sur des vrais... Ça mériterait un café philosophique, quoi. C'est pour ça que je disais dès le début, la mobiquité, c'est avant d'être des problèmes techniques, c'est aussi des problèmes de philosophie, de vision de la société, d'utopie. C'est toutes ces choses-là en même temps, au-delà de problèmes purement mécaniques, quoi.
Bien, merci beaucoup. Donc, le café philosophique va être ouvert à l'étage pour une petite demi-heure et nous te remercions tous de ton intervention, François.
Merci.